travers de son schéma directeur cyclable, l'agglomération du Saint-Quentinois a souhaité engager une réflexion stratégique sur le développement d'une politique cyclable ambitieuse à l'échelle de ses 39 communes. L'objectif principal est de disposer d'une vision globale sur les aménagements à réaliser, les services à développer et les actions à mener pour développer une véritable culture vélo sur le territoire afin de favoriser la pratique du vélo sur tous les plans en la rendant accessible et pratique. L'élaboration du schéma directeur cyclable s'est déroulée entre mars 2021 et avril 2022. Ce travail, mené en concertation avec les élus et les usagers, s'est concrétisé par l'adoption du schéma directeur cyclable lors du conseil communautaire du 22 juin 2022. Je rejoins à la mairie de Saint-Quentin dans l'Aisne Michel Magnier, adjoint au maire chargé de l'environnement et du développement durable.
Michel Magnier, je suis adjoint au maire de Saint-Quentin sur les questions environnement et développement durable et je suis également conseiller communautaire à l'agglomération du Saint-Quentinois.
Michel, je voulais vous rencontrer aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la mobilité douce et notamment du schéma directeur que vous avez mis en œuvre qui s'étend sur les 39 communes de l'agglomération du Saint-Quentinois.
Donc oui, au niveau de l'agglomération du Saint-Quentinois, on a effectivement élaboré un schéma directeur qui a montré en première priorité qu'on avait le chemin de halage le long du canal de Saint-Quentin qui parcourt quasiment l'ensemble de l'agglo, qui va d'un village qui s'appelle Fonsomme, où se trouvent les sources de la Somme, jusqu'à Saint-Simon-Jussy pour notre agglo, et puis qui va beaucoup, beaucoup plus loin. Et alors ça faisait partie des priorités qui ont été relevées. On a aussi un ensemble d'axes aussi bien dans Saint-Quentin que sur des communes limitrophes ou un peu plus éloignées sur lesquelles donc, on a eu à s'intéresser en particulier. Donc on a, dans ce cadre-là, par exemple, fait appel au fonds de mobilité active lancé par l'État parce que ce sont des travaux qui coûtent cher. On n'a pas toujours l'impression, mais mettre en place les mobilités douces, ça peut être quelque chose qui coûte vite cher. Et donc, notamment pour les liaisons entre des communes autour de Saint-Quentin, on a fait appel à ce fonds de mobilité qui devrait nous permettre de mettre en place une piste en complément de ce qui existait déjà. Donc on a réfléchi à la fois sur le canal, sur la ville-centre qui est Saint-Quentin et aussi sur les communes alentours. Avec une précision quand même, c'est que dans l'agglomération du Saint-Quentinois, chaque commune reste maître de sa voirie. Donc c'est surtout pas ni l'agglomération qui donne des ordres, ni la ville de Saint-Quentin qui donne des ordres aux autres. Chaque maire, chaque commune a la compétence voirie en propre. Et donc c'est un travail qui se fait aussi bien au niveau de Saint-Quentin en tant que ville-centre, de l'agglo en général et des différentes communes qui composent l'agglo.
L'objet de ce schéma directeur cyclable, c'est de développer le maillage territorial et d'accélérer les aménagements.
Oui, en fait, il y a vraiment plusieurs dimensions. Il y a d'abord le côté aménagement dont on a parlé, hein, qui consiste à mettre en place notamment des pistes cyclables, mais aussi des voies vertes. Je parlais tout à l'heure du chemin de halage, on l'a requalifié en voie verte et on a refait le revêtement sur la partie, en tout cas, qui concerne Saint-Quentin, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles ou de difficultés. Sur le tronçon au-delà de Saint-Quentin, il peut arriver qu'il y ait quelques difficultés, donc ça on les a regardées de près, mais il est praticable, alors sachant qu'aujourd'hui c'est aussi une propriété VNF, donc voilà, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte et sur lesquels on travaille au niveau des études. Après, au-delà des aménagements, il y a aussi tout ce qui peut être stationnement vélo, sur lequel on a beaucoup appuyé aussi, aussi bien au niveau ville que agglo, et de la communication. On a mis en place pas mal de flyers de communication et d'affichage et de spots de manière à inciter les gens à faire du vélo, rappeler les règles, aussi bien pour les automobilistes que pour les cyclistes, de manière à ce que tout se passe bien sur la route.
C'était donc ma prochaine question, puisque vous avez lancé une campagne de communication en mars 2023. Quel était l'objet de cette campagne ?
Alors au niveau de la communication, voilà, l'important c'était à la fois d'inciter à faire du vélo, mais aussi de rappeler que quand on est automobiliste, il faut faire attention, on double pas un vélo en le frôlant, on respecte une distance soit d'un mètre en ville, soit d'un mètre cinquante quand on est hors agglomération. Pour les cyclistes, une des priorités c'est d'avoir toujours bien ses lumières, donc ça pour moi c'est vraiment le point essentiel, c'est quand on fait du vélo, on a toujours les lumières, s'il fait sombre, évidemment on les allume, trottinette c'est le même principe, dès qu'il y a de l'obscurité, il faut absolument voir et être vu, donc les lumières c'est indispensable. C'est un exemple de règle qu'on avait rappelé. Les trottinettes électriques sont interdites aux jeunes qui auraient moins de 14 ans. Enfin, ouais. Il y a tout un ensemble de règles qu'on a voulu rappeler dans ces campagnes de com, aussi bien à destination des trottinettistes et des cyclistes que des automobilistes, pour pas que les gens prennent de dangers inutiles. Un accident c'est souvent des imprudences et des dangers mis ensemble. Si on arrive à prévenir ces dangers-là, bah, on prévient aussi les accidents.
D'après une enquête de Zenrite, les trajets en vélo ont augmenté de 28% entre 2019 et 2020, Pourtant, 75% des déplacements de moins de 5 km sont effectués en voiture. Comment convaincre les citadins de changer de leur mode de déplacement ?
Alors oui, c'est un vrai sujet, parce qu'évidemment, il n'est pas question de mettre tout le monde à vélo demain en forçant les gens à enfourcher un vélo ou en montant sur une trottinette. Là, le but, c'est déjà de pouvoir donner à chacun la possibilité d'utiliser le véhicule qu'il souhaite ou ce dont il a besoin. Si des gens ont absolument besoin d'utiliser la voiture, il n'est pas question de leur dire soit vous en avez l'interdiction, soit c'est mal. À l'inverse, si des gens veulent utiliser le vélo ou la trottinette, mais qu'ils n'osent pas parce qu'ils trouvent que c'est dangereux, non pas parce que ça serait dangereux en soi, mais parce qu'ils se sentent menacés sur la route, l'idée, c'est de leur donner le maximum de conditions de sécurité pour qu'ils puissent faire leur déplacement en toute tranquillité. Donc, la barrière, à mon avis, la plus forte à l'usage du vélo ou de la trottinette, c'est pas la pluie, c'est pas la montée, c'est pas des choses comme ça. C'est surtout que les gens veulent se sentir en sécurité quand ils se déplacent. Quand on monte sur un vélo, on veut pouvoir être sûr en arrivant à son lieu d'arrivée qu'on n'a pas été renversé sur la route. Donc voilà, l'important à mon avis pour augmenter ce qu'on appelle la part modale du vélo, c'est-à-dire le nombre de gens qui se déplacent à vélo par rapport au nombre total de personnes, c'est avant tout de lever ce frein-là, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient en sécurité sur la route. Donc c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre d'aménagements. On ne peut pas mettre des aménagements partout tout de suite. Il y a aussi des rues qui sont de fait étroites et où ce n'est pas possible de prévoir une circulation vélo spécifique. Donc le fait que les automobilistes, par exemple, respectent bien les règles du code de la route, le fait que les cyclistes fassent bien attention à être éclairés, à ne pas prendre de risques sur la route, ça contribue aussi au total à pacifier les déplacements et augmenter les gens qui vont se dire tiens oui, ce petit trajet-là, je peux le faire à vélo ou à trottinette, je ne prends pas de risques et puis en plus c'est agréable. Hein, donc c'est intéressant qu'on puisse leur donner la possibilité de le faire.
La mise en œuvre du schéma directeur a nécessité et nécessite encore des travaux de voirie. Est-ce compliqué de satisfaire les usagers, les automobilistes ainsi que les habitants ?
Alors, c'est la question principale, c'est de savoir comment on peut contenter tout le monde, parce que le but quand on est dans une mairie, c'est pas de se faire plaisir à soi, c'est de faire en sorte que tous les gens soient dans des conditions de vie plus agréables, plus pratiques. Voilà, on travaille pour tout le monde par définition. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant des décennies, au niveau de la France et même de l'Europe, voire du monde, on a accordé beaucoup de place à la voiture, mais énormément de place à la voiture. Si vous regardez une rue classique, entre les stationnements, les voies de circulation, il y a une place énorme pour la voiture. Et donc, c'est vrai que beaucoup se sont habitués à ce que la voiture soit un peu la reine sur la route. Et alors, il n'est pas question d'interdire aux gens de prendre la voiture. Les gens pour qui c'est une nécessité, il n'y a pas de raison de leur dire de descendre de leur voiture. Par contre, à l'inverse, il ne faut pas non plus qu'on empêche les cyclistes, les trottinettistes, même parfois les piétons de se déplacer. Donc il y a des aménagements à faire. C'est pas forcément possible d'en faire partout, ça a un certain coût, mais disons que là où on peut en faire, il faut les faire. Et puis il y a parfois un équilibre à trouver entre le confort de l'automobiliste et la sécurité du cycliste. Et ça, alors quand on monte sur un vélo régulièrement, je pense qu'on en prend conscience. Quand on ne monte pas sur un vélo, on n'en prend pas forcément conscience, pas forcément parce que ça n'intéresse pas, mais parce que l'expérience toute bête, c'est quand on est cycliste et qu'on se fait frôler par un automobiliste, ça met en danger, ça fait peur et c'est un vrai risque. Et je pense que parfois, certains automobilistes ne se rendent pas compte du risque qu'ils ont fait courir et se disent, après tout, je suis passé pas loin, mais c'est pas grave, je n'ai pas touché, je n'ai pas menacé. Mais donc voilà, l'équilibre à trouver, c'est que d'une part, il faut que les gens puissent se déplacer comme ils le souhaitent, et d'autre part, que la sécurité soit assurée. Donc l'équilibre entre les deux. Alors, à Saint-Quentin, on a essayé de faire le maximum de participation. C'était la volonté du maire, qu'on puisse avoir l'avis des gens, parce que c'est quand même eux qui sont les premiers concernés, donc c'est tout à fait légitime de travailler avec eux. Les questions cyclables, elles ont beaucoup été abordées de manière assez large. Alors, notamment, on a un comité vélo avec des gens qui font du vélo et qui sont intéressés par ces questions-là. Alors, soit qui en font, ou soit qui aimeraient en faire, mais qui ont des difficultés, parce qu'ils trouvent que ça peut être dangereux. Et puis, on a beaucoup d'échanges aussi au niveau de la ville avec les conseils de quartier, avec les retours qu'on peut avoir, quand on a mis en place certains aménagements, distribuer des flyers, voilà. On a un rôle de communication à faire, alors qu'on fait de bon gré, mais qui normalement devrait plutôt être celui de l'État, parce que ce qu'on met en œuvre, évidemment, c'est pas le code de Saint-Quentin, c'est le code de la route nationale, et parfois l'État gagnerait à communiquer plus sur ses propres dispositions. Parfois on se retrouve à faire de la communication sur le code de la route, alors voilà, qu'on fait parce que c'est intéressant à faire et c'est utile, mais c'est des choses nationales. Donc parfois, les gens se disent, tiens, Saint-Quentin fait ça. Mais en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est d'appliquer le code de la route, hein, de manière générale. Donc si on avait un peu plus de communication de la part de l'État sur ces sujets, ça nous aiderait, nous. Et ça aiderait aussi les gens, puisque parfois, le code de la route, on l'a passé il y a longtemps, ou parfois, il y a des points qu'on n'a pas forcément en tête. Donc plus l'État fera de communication et de rappel sur ce sujet, mieux ce sera.
Quels sont les avantages de la mobilité douce, notamment le vélo, en termes d'environnement et en termes de santé ?
Ah bah, le vélo, la trottinette, c'est des solutions simples à des problèmes compliqués. Pour lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire pour faire de l'activité physique, c'est utile, alors, je pense en particulier au vélo. Pour se déplacer sans émettre des polluants divers et variés, parce que la voiture thermique, c'est encore une source de pollution majeure. On émet quasiment pas, voire pas du tout, de gaz à effet de serre, contrairement à la circulation automobile. On se déplace plus facilement. Voilà, il y a à la fois le côté activité physique pour la santé, puis le côté environnemental. C'est vrai que c'est pas négligeable. Et puis bon, ça reste un plaisir. En général, les gens qui sont passés de la voiture au vélo ont très rarement fait marche arrière. Donc c'est plutôt bon signe. Si le nombre de cyclistes augmente, c'est non seulement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, mais c'est surtout parce que ceux qui s'y ont mis ne reviennent pas ou quasiment pas à leur mode de déplacement antérieur. Et puis en réalité, ça se complète bien, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de déplacements à vélo qu'on n'en fait pas un petit peu en voiture. Donc c'est vrai que c'est pas dans l'idée de s'interdire un mode de déplacement, c'est surtout dans l'idée de se dire qu'il y a plusieurs modes de déplacement et qu'on n'est pas obligé de réfléchir toujours « Allez, je prends ma voiture même pour faire 300 mètres », mais de se dire « Tiens, pour faire 300 mètres, je pourrais quand même me déplacer autrement parce que c'est meilleur pour la santé, c'est bon pour l'environnement et puis ça coûte moins cher hein. ». Dans les arguments qui viennent aussi, c'est que quand vous vous déplacez à vélo, c'est toujours des économies de carburant et d'usure de la voiture qui sont faites, donc ça a toutes les qualités et tous les avantages.
Merci beaucoup Michel.
Merci Jean-Christophe.
Ce reportage a été réalisé par Jean-Christophe Var de Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.